Bienvenue sur
Racisme.
Des mots sur les mots.
Un podcast créé par la section lilloise de la LDH. Chaque année en France, au moins 1 million de personnes sont victimes de racisme. Seuls 3% portent plainte. Ainsi, la LDH a souhaité redonner la parole aux concernés. Pour ce faire, nous avons parcouru le Nord afin de recueillir des témoignages anonymes et fait appel à des sociologues, des historiens, des juristes et des militants, dans le but d'inscrire le vécu individuel dans une réalité collective. Nous vous présentons l'épisode « Voyageurs, nos concitoyens toujours discriminés » sur le racisme que subissent les gens du voyage, en particulier de la part des institutions. Bien que la forte hostilité à leur encontre et certains discours politiques et médiatiques confondent les populations dites « gens du voyage » avec celles dites « roms », ces groupes sont bien à distinguer. Ils diffèrent par leur histoire et sont soumis à des législations et à des problématiques distinctes. Ainsi, afin de ne pas participer à l'amalgame, les discriminations à l'encontre des populations roms devront faire l'objet d'un épisode propre. Depuis 2022, l'association collectif des femmes d'Assova milite pour les droits des personnes dites « gens du voyage » et contre l'anti-tsiganisme. Sous Hélène Desmestres, directrice de l'association, éclaire sur les discriminations invisibilisées et le racisme banalisé qui impacte cette population.
La discrimination touchée aux gens du voyage, personnellement et autour que je vois, c'est la discrimination, le racisme le plus invisible en France. Parce qu'on se permet d'insulter les gens du voyage comme si on postait une lettre à la poste parce que ça passe comme ça. Il y a énormément de députés ou de parlementaires que j'ai entendus. Je vais donner un exemple le plus choquant, ça a été que Hitler n'en a pas tué assez. Et c'est passé comme si de rien n'était. Il y a une maire de la commune de Denain qui s'est permis de mettre un message sur Facebook en demandant aux riverains d'agir contre les gens du voyage. On est des Français, mais les Français qu'on ne prend pas en compte vraiment parce qu'on fait partie de la communauté des gens du voyage. Seulement, ils ne comprennent pas qu'on est français depuis X générations, qu'on a juste un mode de vie qui est différent des autres Français et qu'on nous pointe du doigt pour ça. Et qu'on a le plaisir, j'ai l'impression, quand j'entends les gens nous discriminer, c'est un plaisir que j'entends dans leur voix parce qu'ils savent que derrière, ils n'ont pas de représailles.
Dans le pôle inclusion sociale du service social de la sauvegarde du Nord, le service direction tziganes et voyageurs accompagne les familles dites gens du voyage qui habitent en caravane, que ce soit sur des aires d'accueil, des terrains privés ou des stationnements spontanés. Elle agit comme intermédiaire entre les familles et les administrations publiques dans une large partie du champ social. À la suite, Julien Châtelain, chef du service éducatif, nous présente les mécanismes racistes d'exclusion des populations dites « gens du voyage » qui semblent largement permis dans les relations avec les services publics.
Ce que ça renvoie, c'est que généralement, on s'autorise à tenir des discours en fait, qui sont des discours racistes, mais qui ne sont pas, je pense même pas, perçus comme ça par la personne qui les dit. Alors qu'on ne pourrait pas dire « on a déjà trop de personnes d'Afrique subsaharienne » ou « on a déjà trop de maghrébins ». Pour les gens du voyage, on s'autorise à tenir ce discours-là, de dire « ah non, dans cette classe-là, ou sur cette école-là, ou dans ce centre d'insertion professionnelle-là, on a déjà trop de gens du voyage, en fait ». Mais la vraie difficulté aussi, c'est que l'ensemble de tous les groupes en France est OK pour avoir un comportement discriminatoire vis-à-vis des populations de tziganes, des populations de voyageurs, etc. Et que c'est presque un racisme qui est admis, en fait. Et ça, c'est la vraie difficulté. C'est historique, ça date du Moyen-Âge, ça a été transmis de génération en génération. Les familles, pareil, de génération en génération, elles ont intégré le fait qu'elles subissaient du racisme. Et voilà, c'est un racisme intégré, en fait, et systémique.
Quand on est en terrain air d'accueil, on n'a pas le droit aux aides, ni aux APL, ni aux aides. Caravane n'est pas considéré comme un logement. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit aux droits sociaux que ont les autres personnes. Et on doit payer notre emplacement qui est de 65€ par mois. Je vous dis, l'emplacement, c'est une dalle de béton de 10 mètres carrés. Hein. Et un petit local en béton qui fait à peu près 2 sur 2. Ça fait qu'on a l'eau et le courant et ça nous revient à peu près à plus de 400€ l'hiver et 210, 220, à peu près, ça dépend des familles, l'été. Et comme on n'a pas d'aide, ben, on a du mal vraiment, vraiment à payer ces grosses factures. Les familles sont très nombreuses parce que comme la métropole ne respecte pas leur engagement à créer plus d'aires d'accueil, ben, les familles sont obligées de s'étaler tous sur les mêmes aires d'accueil et ça fait à peu près du surpeuplage de 200 personnes sur le terrain. Quand on ne vit pas sur les aires d'accueil et qu'on vit en illicite ça veut dire avec nos caravanes on est un peu partout sur la métropole lilloise, ben, on se prend des amendes. Tous les jours on a à peu près 32 € par véhicule, ça veut dire 32 € pour la caravane. Et si on a deux caravanes et deux voitures. Et ça se passe comme ça. Et les gens, ils ont du mal à payer leurs amendes. La plupart ne peuvent même pas les payer. Et à la fin, ben, la caravane, on va dire, ou la voiture, ben, elle est gagée. On ne peut plus la vendre, on ne peut plus rien faire. Ou ils nous la retirent parce qu'on a trop d'amendes dessus. Mais c'est la métropole qui nous oblige à vivre comme ça, en illicite.
Comme mentionné, l'accès aux droits sociaux est lié à la catégorisation de la caravane en tant que logement. Julien Châtelain développe l'approche de la Sauvegarde du Nord, une importante association qui accompagne, en lien avec les services publics, les personnes vulnérables ou en difficulté pour accéder à leurs droits, entre autres les gens du voyage.
Nous, pour notre service social, on accompagne les personnes à partir du moment où elles sont dans ce que l'administration appelle des résidences mobiles terrestres, c'est-à-dire habitat mobile, résidence caravane. Une chose qui permettrait de lever un certain nombre de freins dans l'accès aux droits de ces populations, c'est la reconnaissance de la caravane comme un logement, en fait. Elle est reconnue comme un habitat. Et ça change tout à fait le statut de ces populations aussi en France. Et donc voilà, donc en tout cas notre mode d'entrée il est lié à l'habitat puisque c'est cet habitat qui crée finalement une différenciation avec le reste de la population dans l'accès aux droits. Mmh. Au-delà du racisme ethnicisé qui peut exister, il y a une discrimination qui est liée, voilà, liée à la typologie de l'habitat. En fait c'est comment les politiques publiques s'arrangent pour exclure les populations qui nomadisent en France de l'espace public puisque... Il y a cette question de lieu d'implantation des aires d'accueil, mais il y a aussi la question des terrains privés. Et en fait, le truc, c'est que notamment la loi Allure, elle impose là où auparavant, il fallait déclarer en mairie qu'on mettait une caravane sur un terrain. Maintenant, il faut l'autorisation de la mairie pour mettre une caravane, ce qui change quand même pas mal les règles du jeu. Et évidemment qu'on a des mairies qui sont totalement opposées à l'implantation de familles de voyageurs sur leur territoire et qui, du coup, rendent... mettre de fait les familles dans des situations d'irrégularité juridique. Tous les aires d'accueil, c'est dans le cadre de la loi Besson. Les aires d'accueil, c'est perçu comme, en gros, c'est la main de l'État qui donne, hein, c'est-à-dire on met à disposition des dispositifs spécifiques pour des populations qui ont des modes de vie spécifiques, donc ça part d'une très bonne intention. Sauf qu'en fait, si on n'en fait pas assez, si on les implante dans des lieux qui sont pollués, qui sont éloignés des services publics, etc., finalement, ça devient pour les familles une problématique d'aller sur ces lieux de vie. Par contre, on a rendu encore plus dure la répression contre les stationnements dits illicites, que nous on appelle spontanés. Vous pouvez prendre 500 € d'amende par jour pour un stationnement illicite en caravane. Là, il y a un projet de loi qui vise à les monter à 1 000 € par jour. Donc en fait, là aussi, on est dans une discrimination liée au mode d'habitat. C'est-à-dire que, bah, en gros, on est en train d'interdire le nomadisme en France. Donc voilà, on est en train de normer l'habitat aussi, et finalement de ne plus prendre en compte la diversité, les différences culturelles, les besoins. Le fait d'avoir un habitat mobile, c'est aussi en lien, pour beaucoup de groupes, à de l'activité économique. Ils vont faire des métiers où ça va nécessiter un membre du groupe familial complet, pas uniquement de la personne au sein de la famille qui travaille.
À la suite, Anne-Claire Grandjean, chef du pôle régional des Hauts-de-France, du Défenseur des droits.
Alors, au sujet de l'accès aux droits des personnes gens du voyage, il y a quelques années maintenant, le Défenseur des droits a développé un certain nombre d'outils pour aller vers cette population et permettre un meilleur accès à l'institution. Donc, on a développé un certain nombre de fiches thématiques concernant les droits et libertés de ces personnes. Les personnes gens du voyage ont davantage de difficultés que d'autres personnes à justement intervenir au sein de structures type des maisons de justice et du droit, par un défaut de confiance notamment dans l'administration en général. Et donc c'est la raison pour laquelle au niveau du défenseur des droits, au sein notamment du pôle régional des Hauts-de-France, nous avons développé un certain nombre de partenariats, notamment avec la sauvegarde du Nord, afin de mettre en place une permanence spécifiquement dédiée à l'accueil des gens du voyage au sein de cette permanence et afin de permettre finalement un meilleur accès aux droits de cette population. Une population dont on sait qu'elle est spécifiquement finalement plus à risque que d'autres d'être exposée à un certain nombre de risques et notamment sanitaires. Certains rapports d'activité mettent en exergue que du fait de l'emplacement à proximité d'usines dangereuses, par exemple de cimenteries, eh bien les enfants gens du voyage ont bien davantage que les autres des risques très importants de développer des pathologies, notamment liées à l'asthme.
Vivre ici, ce n'est pas vivre, c'est survivre. Alors il y a une usine à béton qui est très à côté carrément des caravanes, très collées. Moi, je suis vraiment à 30 mètres. Vraiment, on sent tous les effets de la poussière en été. Mais des piscines pour les enfants, c'est très compliqué. Parce qu'en été, on ne peut pas sortir un enfant qui est déjà malade. Ici, un enfant qui a une bronchiolite, là, il est vraiment affecté, son bronchiolite. Donc, ce n'est pas normal. Un enfant qui est né, en même pas une semaine après, qu'il a une bronchiolite, mais infectée, qu'il est hospitalisé aussi vite, ce n'est pas normal. Et quand on dit ça à les responsables justement des aires d'accueil, ils nous disent oui, mais c'est normal, c'est une bronchiolite. C'est pas normal du tout. Et nous demander vraiment des preuves, pourquoi on est malade, comment ça se fait qu'on est malade. J'étais sur l'aire d'accueil, je suis sortie cet été et ça fait 7 mois que je ne suis plus sur l'aire d'accueil. Ça fait 7 mois, je le ressens, je ne suis plus malade. Moi, j'ai 3 enfants, 3 petits-enfants. Ben, je peux vous dire, ils n'ont plus de bronchique, ils ne sont plus malades. Avec les grippes de cet hiver, ben, je peux vous dire qu'ils ne sont même pas malades. Moi, je peux vous dire que ce terrain-là n'est pas pour des gens habitables. Parce que les maladies, ça s'enchaîne tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Nous entendons de nouveau les travailleurs sociaux de la sauvegarde du Nord sur les discriminations liées à l'emplacement des terrains d'accueil et à l'accès aux soins.
On est avec des personnes qui se plaignent pas et vont attendre vraiment que ça fasse mal en fait, ou qu'il y ait tellement une peur du soin, ouais, une peur des médecins. Ils vont attendre vraiment que la douleur soit forte pour finalement se contraindre à aller vers du soin, puisqu'ils ne le vivent pas comme un truc bénéfique, mais avant tout comme une contrainte de devoir aller se faire soigner, en tout cas pour, encore une fois, pour les familles qu'on est amené nous à accompagner en tant que service social. Mais en tout cas, oui, et effectivement, c'est renforcé, et là on peut parler de discrimination ou en tout cas de difficultés spécifiques, c'est la question effectivement de l'accès à la médecine de ville, puisque pour avoir un médecin généraliste, généralement il faut être ancré sur un territoire et pouvoir aller le voir régulièrement. Avec maintenant la question des déserts médicaux, la question des médecins qui prennent plus de nouveaux patients, ça on le voit énormément, y compris sur les, quand on fait des demandes sur les applis type Doctolib, etc., ne prend pas de nouveaux patients, ils demandent systématiquement si on a déjà été consulté. Et du coup, pour des familles qui ont un mode de vie itinérant, forcément, quand elles arrivent sur quand elles changent de territoire régulièrement, elles ne peuvent pas avoir un seul et unique médecin. Donc, logiquement, la numérisation des dossiers médicaux, elle est censée apporter un plus, puisque n'importe quel médecin en France peut avoir accès au dossier médical d'un nouveau patient qu'il rencontrerait, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Et on est aussi avec, en tout cas, pour les familles qu'on accompagne, sur une difficulté aussi à amener du soin au domicile, puisque nous on accompagne beaucoup de familles qui sont en habitat caravane mais qui sont sédentarisées, soit sur des terrains privés, soit sur des aires d'accueil, et en fait qui ont, au même titre que le reste de la population, besoin aussi de médecins qui se déplacent. Ça empêche aussi toute une partie de l'accès aux soins, et aussi juste qui pourrait être préventif et qui pourrait envoyer les gens vers le milieu hospitalier avant que ça devienne trop grave.
Jusqu'ici, nous avons surtout entendu parler de discrimination liée à l'habitat non reconnu administrativement. Cela empêche l'accès aux droits et aux services publics au même titre que le reste de la population. Cependant, reste la question importante de l'accueil de l'administration publique, qui doit servir tous les citoyens dans l'égalité et l'accessibilité. Dans les faits, elle ne s'adapte pas aux besoins de tous les usagers et révèle ainsi une pratique discriminatoire et une volonté d'exclusion. Nous revenons vers Julien Châtelain de la Sauvegarde du Nord sur cette question.
Il n'y a rien qui est facilité, en fait. Même nous, quand on... un appel à la CPM, par exemple, où la personne ne sait pas forcément bien s'exprimer, ou une difficulté quelconque, et en fait, on se retrouve bloqué à ne pas pouvoir...
pas valider l'appel.
Ouais, c'est ça, parce que il s'adapte pas aux difficultés des personnes, et même les personnes qui peuvent pas se déplacer. Enfin, il y a plein de moments où vous vous retrouvez en difficulté parce qu'ils s'adaptent pas à la situation, quoi.
L'un des gros travaux qu'on fait aussi, c'est du décryptage des demandes des institutions auprès des personnes, quoi.
Oui, c'est pas facilité du tout. Tout se fait sur Internet, donc si tu sais pas lire, tu sais pas écrire, en fait, tu te retrouves en difficulté constamment.
Ton mail, il a changé, ton téléphone, il a changé, parce que c'est des personnes qui savent plus.
Ou souvent, ils ont peur de s'exprimer, enfin, pas tous, mais ils se disent « Ah, j'ai un peu de mal à m'exprimer », si t'es face à quelqu'un qui est ouvert et qui veut t'aider, ok, mais des fois, ils se font ébouler parce qu'ils ont pas bien dit ce qu'il fallait selon la personne en face, quoi. Donc c'est pas...
En fait, on accompagne aussi pas mal de familles dont la langue maternelle est pas, même s'ils sont français. La langue maternelle, c'est le dialecte, donc le romanès, et c'est le français, c'est un peu la langue sociale qui va être parlée à l'extérieur du groupe. Et du coup, on est avec des personnes qui sont pas toujours sûres de ce qu'ils comprennent ou de ce qu'ils émettent en fait en termes de messages. Ça nécessite une médiation, soit au moins une adaptation des personnes qui sont en face pour essayer d'adapter leur niveau de vocabulaire, de s'assurer de la bonne compréhension aussi de la personne en face. Et voilà, quand on est dans une administration, quelle qu'elle soit, en fait, il n'y a pas cette chose-là.
Ma maman ne savait pas lire et écrire. L'hôpital, quand elle faisait sa toilette, maman, elle était un peu sourde et elle n'attendait pas beaucoup. Elle dit « Oui, mais on ne comprend pas ce qu'elle dit, votre maman. » Ben, je dis « Pourtant, elle parle français, ma mère. » J'ai elle parle français. Hein. Vous voyez, les réflexions comme ça. Mon frère qui est à l'hôpital, ils lui ont mis tous les feuilles sur la table, c'est moi qui ai dû les remplir. Et alors je dis à mon frère, t'as pas demandé à la dame elle les a achetés comme ça, les papiers, les stylos avec. Ah bon, j'y sais bien, alors j'y laisse, je vais remplir.
Nous revenons vers Sue-Hélène Desmestres de l'association collective des femmes d'Assova, qui nous explique ses actions, ses victoires et ses combats qui continuent.
On a décidé de créer l'asso car on était en collectif depuis 10 ans. On a vu qu'on ne nous écoutait pas, malgré le fait qu'on dénonçait et qu'on mettait en avant nos vraies conditions de vie. Être en asso, ça voulait dire exister administrativement. On a décidé de monter en asso justement pour mettre en avant et obtenir des réponses. Parce on nous écoutait, mais on n'obtenait jamais de réponse parce que c'était pas légitime pour eux qu'on nous réponde. Pour eux, nos droits n'étaient pas mis en avant et c'était très bien comme ça parce que ça faisait des années que les gens ici et partout en France se laissent écraser parce que croient que c'est normal. La première action était aller rencontrer les gens dans les aires d'accueil. On a constaté qu'ils étaient discriminés. En fait, les gestionnaires des aires d'accueil et de la métropole se permettaient de rentrer dans les caravanes sans permission, vérifier si les enfants étaient scolarisés, détruire des chalets où ça faisait 10 ans qu'une maman et ses enfants étaient dedans, expulser les gens sans motif valable, sans document, vraiment leur dire « toi t'es sale, tu sors, toi tu payes pas, tu sors ». On a décidé de justement, avec toutes les plaintes de gens, de monter une charte des droits avec notre avocate et elle mettait en avant les droits fondamentaux français. Nous avons décidé de manifester devant la métropole et nous avons réussi à changer le règlement intérieur, à imposer les 4 textes de loi français fondamentaux, à obtenir une réunion de conciliation. Cette réunion consiste à ce que, s'il y a un litige entre les gestionnaires et les habitants des aires d'accueil, on puisse l'obtenir et avoir des réponses sans pouvoir rester dans le flou et nous jeter dehors sans réponse. Normalement, les dirigeants, que ce soit à la préfecture, à la mairie ou partout, qui sont censés protéger les gens, ne protègent pas du tout les gens du voyage. Comme les gens du voyage n'ont pas cherché à se défendre, que des années ils ont subi, les premières associations représentatives des premiers concernés n'ont pas été les bienvenues au niveau là-dedans, mais nous, on a fait en sorte qu'on soit les bienvenus et leur réaction par la suite a été super. On a forcé le respect et rien que pour ça, on est fiers.
Les travailleurs sociaux de la Sauvegarde du Nord mettent en lumière les éléments essentiels à la lutte contre les discriminations commises par les agents publics. Ils incluent, certes, la formation et des mesures d'adaptation au niveau des agents, mais dépendent essentiellement de la posture des institutions publiques et de la volonté de prendre au sérieux les signalements.
Bah justement, de comprendre un peu déjà peut-être ce que c'est, enfin, qui est ce public.
Des sensibilisations sur le public.
C'est déjà comprendre le public et un peu plus adaptabilité, je pense. Mm.
En fait, il y a tellement de stigmatisation.
Ouais, c'est ça.
Il y a ça, il y a ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'avoir des écrivains publics dans les administrations. Enfin, oui, on peut former les gens éventuellement ou leur apprendre qui sont ces publics-là, mais je pense que la première chose, c'est de rappeler aux administrations la loi, en fait, puisque notamment les services publics. On est dans le cadre d'une constitution qui discrimine ni par la religion, ni par l'apparence, ni par l'appartenance à un groupe supposé ou réel. Et donc à partir de là, c'est juste rappeler la loi aux administrations et qu'il y ait des sanctions aussi. Qu'il ne soit pas des sanctions qui viennent du fait que l'usager a fait un recours, mais du fait que l'usager a fait un signalement. Et juste en signalant une discrimination, qu'il puisse y avoir une enquête et une sanction derrière.
Merci beaucoup pour votre écoute de cette deuxième partie de l'épisode « Voyageurs, nos concitoyens toujours discriminés ». Merci à tous ceux qui ont soutenu ce projet en apportant leur perspective. Merci aux militantes de l'association collectif des femmes d'Assova. Merci au pôle inclusion sociale de la Sauvegarde du Nord. Merci aux centres sociaux partenaires. Et merci infiniment à tous ceux qui ont partagé leur vécu pour rendre possible cet épisode. Victime ou témoin d'une discrimination ? Appelez le défenseur des droits au 3928. Ce projet est soutenu par la DILCRA et réalisé en partenariat avec Radio Campus, Radio Moulin, MIT FM et Pastel FM. Luttons ensemble contre l'invisibilisation et la banalisation des racismes.